Dans Culture sans frontières, on part loin dans le temps et dans l'espace, en Russie plus précisément, au moment de la révolution bolchévique. Coup de projecteur sur un épisode peu connu de la Première Guerre mondiale, l'histoire des légionnaires tchécoslovaques qui vont se retrouver coincés dans un pays en proie à la guerre civile et mettront 3 ans à rentrer en Tchécoslovaquie. C'est le sujet qui a inspiré le scénariste français de bande dessinée Chris, avec qui s'est entretenue Anna Kubishta.
Culture sans frontières. Anna Kubishta.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle rubrique culturelle. Dans cette rubrique culturelle, j'accueille aujourd'hui Chris, qui est scénariste de bande dessinée. On lui doit notamment en France Notre Mère, la guerre. Et avec son comparse Jean-Denis Pandanx, ils ont sorti en juin dernier le premier tome de la BD Svoboda. Svoboda, on en avait parlé en août 2010. Il s'agit d'une bande dessinée qui retrace l'épopée des légionnaires tchécoslovaque en Russie après la Première Guerre mondiale, en tout cas sur la fin de la Première Guerre mondiale et un peu après. Bonjour Chris.
Bonjour.
Donc déjà félicitations pour ce premier tome sorti donc en juin. Juste une petite piqûre de rappel puisqu'on s'était quand même parlé il y a un an. Est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu comment est née l'idée de cette BD en 9 volumes quand même? C'est le premier d'une longue série.
Oui, on va partir pour une longue fresque. Elle est née totalement par hasard, souvent comme les grandes histoires, puisque c'est en lisant un article au sein d'un livre sur les trains blindés. Cet article évoquait ces légionnaires tchèques au beau milieu de la Sibérie pendant l'été 1918. Et je ne connaissais pas du tout cette histoire. Et rapidement, je me suis posé la question de ce que faisaient au beau milieu de la Russie ces légionnaires tchèques. Et à partir de là, j'ai mis une petite année à commencer à trouver pas mal de documentation, puisque c'était il y a déjà 5-6 ans, hein, c'était en 2005-2006. Et j'ai mis pas mal de temps à réunir des informations, à trouver des gens qui connaissaient un minimum cette histoire. Et puis après, j'ai dû commencer à tirer sur les bons fils. Et voilà, petit à petit, j'ai découvert l'ensemble de cette aventure qui correspondait exactement à tout ce que j'aime raconter, en général, dans mes récits de bande dessinée.
Oui, parce qu'il faut dire que tu es scénariste de bande dessinée et que tu te spécialises notamment dans une forme de récit historique. Alors justement, ce premier volume qui vient de sortir en France aux éditions Futuropolis, de quoi parle-t-il? Je suppose que tu dois un petit peu présenter, tes personnages et puis un petit peu l'histoire qui est sans doute assez peu connue, notamment du public français.
Oui, c'est ça, c'est qu'il faut avant tout contextualiser et poser ses personnages principaux. C'est le plus difficile, surtout quand on part pour un récit très long, on est obligé de partir sur un rythme aussi assez lent. On court pas un marathon comme on court un 100 mètres, donc l'idée de ce premier récit, c'était effectivement d'amener au public français les éléments politiques, historiques de base pour qu'ils comprennent bien le dilemme qui se présente à ces légionnaires tchèques, qui ne veulent qu'une chose, c'est de rentrer chez eux et obtenir l'indépendance de leur pays, et qui vont se retrouver coincés en Russie pendant 3 ans à participer à peu près à tout ce qui se passe comme événement important pendant cette période.
Qui est une période très trouble, hein, puisqu'il y a eu la révolution bolchevique.
Oui, voilà, c'est surtout la révolution bolchevique qui les coince en Russie, mais après ils vont être amenés. C'est étonnant parce que en langue française, du moins, il n'y a pas de synthèse sur le parcours des légionnaires tchèques, mais on ne peut pas lire un livre sur la guerre civile russe sans apercevoir les Tchécoslovaques en arrière-plan. Ils sont quasiment partout. Lors de l'assassinat du tsar, ils sont là. Pour le déclenchement de la guerre civile, ils sont là. Enfin, pour voilà, tous les événements majeurs de la guerre civile russe ou de la révolution bolchevique, on trouve les Tchèques. Alors voilà, on essaye de réunir un peu tout ce récit-là et d'en faire une fresque romanesque où se mêlent beaucoup de choses, notamment les questions sur qu'est-ce qu'un pays, qu'est-ce qu'une nation. Et puis évidemment, il y a une histoire d'amour qui se prolonge, une très grande histoire d'amitié aussi entre les deux personnages principaux, etc.
Alors justement, est-ce que tu pourrais un petit peu présenter ces personnages principaux qu'on va retrouver tout au long de ces 9 volumes?
Oui, ils sont au nombre de 3. Le plus important dans ce tome 1, c'est un personnage que j'ai appelé Jaroslav Žvek, pour la raison simple, c'est qu'il est une sorte de mix entre l'écrivain Jaroslav Hašek et son personnage de roman, le bras soldat Žvek. J'avais besoin d'un personnage quand même de fiction, même s'il est très inspiré de l'écrivain Hašek, mais j'avais besoin d'une liberté de pouvoir le placer à tel ou tel endroit si j'en avais besoin, et de lui donner quand même le caractère que que j'avais envie.
C'est-à-dire un anard total.
Ouais, plus que ça encore, parce que c'est un type qui, voilà, qui n'aime rien tant que mettre un peu le bazar, ça c'est sûr, plus ou moins joyeusement. Mais je le définis souvent comme un personnage qui ne croit en rien, si ce n'est à la beauté du geste. Quelque part, la seule chose qui peut le fasciner, c'est la pureté, parce que bon, lui, justement, s'estime comme une canaille, hein, ni plus ni moins, et l'assume totalement. Par contre, il est fasciné par cette pureté de sentiment qu'il trouve chez donc son meilleur ami, qui est l'autre personnage principal, qui est lui un jeune peintre idéaliste qui s'appelle Pepa Tcherny, et qui lui a juste une vingtaine d'années, alors que Jaroslav a 30 ans et a déjà beaucoup baroudé. Et Pepa Tcherny, lui, est un amoureux de la France, de la culture française, et rêve d'une république tchécoslovaque à la française, justement. Et à cette noblesse de sentiments, de cœur, d'engagement politique que Jaroslav, lui, serait totalement incapable d'avoir. Mais Pepa, lui, admire Jaroslav pour ses talents d'écrivain. C'est un écrivain et un jeune peintre. Et c'est leur histoire à tous les deux qui va former ce carnet de guerre imaginaire, puisque c'est un carnet de guerre imaginaire.
Enfin, et puis il y a encore un troisième personnage. Hein.
Voilà, le troisième personnage qui arrive également dans ce tome 1, c'est une jeune femme, une jeune noble d'origine autrichienne, mais qui vit à Prague, qui s'appelle Nora, et Nora Kinski, qui est inspirée là aussi d'un personnage réel, qui s'appelait Natasha Kinski, qui était surnommée la Comtesse Rouge, qui était une jeune noble qui s'était engagée dans la Croix-Rouge pour aider les prisonniers de guerre austro-hongrois en Sibérie, qui s'est retrouvée coincée par la révolution bolchevique en Sibérie, et qui est rentrée donc... dans son pays suite à un périple assez immense où elle s'est déguisée en tout et n'importe quoi pour échapper au rouge et qui a croisé les Tchèques notamment. Et on pense au final que c'était sans doute une espionne austro-hongroise. Alors voilà, je la mets entre les pattes de mes deux personnages, Jaroslav et Pepa, qui tous les deux, à leur façon, vont tomber amoureux d'elle. Et elle-même, Nora, à sa façon, va tomber amoureuse de ces deux personnages-là. Donc voilà, c'est ce trio que je vais m'attacher à raconter le périple pendant 9 albums.
Alors, c'est ce que je disais en introduction, ce premier volume est sorti en France début juin. Bon, ça fait pas très longtemps pour l'instant, mais quelles sont un peu les réactions que vous avez pu avoir tous les deux sur votre travail et puis simplement sur justement cette page d'histoire qui est pas forcément très connue?
Il y avait quand même une certaine attente parce qu'on avait communiqué dessus depuis pas mal de mois et d'années, et puis bon, nos parcours respectifs, Jean-Denis et moi, étaient assez connus des amateurs de genre de récit, donc il y avait une vraie curiosité parce qu'effectivement plus personne ne connaissait cette histoire quasiment ou presque, donc il y avait vraiment une curiosité de connaître ça. Aujourd'hui, les premiers retours qu'on a, c'est que justement le premier tome se termine au moment où l'histoire démarre réellement, donc voilà, il y a une frustration pour la suite, mais de toute façon la frustration est plutôt l'ami du scénariste parce que elle donne envie de lire la suite. On sent bien que les lecteurs manquent parfois de repères sur l'histoire précise et de cette période et surtout de cette région, l'Europe de l'Est, qu'on connaît assez mal aujourd'hui chez nous. Donc voilà, je vais distiller petit à petit des informations aussi pour immerger de plus en plus de lecteurs dans cette histoire-là qui, moi, personnellement, m'a toujours fasciné. Enfin, j'ai toujours été attiré par l'histoire de l'Europe de l'Est, que ce soit la Russie ou la Tchécoslovaquie en général.
Justement, c'était une question que je voulais te poser. Qu'est-ce que t'apporte à toi personnellement cette aventure, cette découverte, ce travail?
C'est un plaisir. Je n'ai jamais trop su pourquoi justement j'étais attiré par tous ces pays-là. Je sais que familialement, les accords de Munich, par exemple, étaient très connus et étaient toujours considérés comme une vraie trahison de ce que plus jamais la France ou une démocratie française devrait faire à un pays allié. Donc c'était quelque chose, ça me permet aussi d'aller à la recherche de cette histoire-là, de la remettre en lumière, de re-raconter encore une fois que quand la démocratie est faible, elle est sûrement le plus faible des régimes, et quand elle est forte, elle est sans doute le plus fort. Et l'histoire de ces légionnaires tchécoslovaques, c'est quand même l'histoire d'une démocratie en marche, d'une nation en marche, et tous les témoignages s'accordent pour montrer à quel point cette aventure a pu être menée à son terme, parce qu'ils étaient restés très unis, et avec... on va dire un vrai idéalisme quelque part. Donc voilà, ça m'intéresse de mettre en lumière ce parcours-là. C'est toujours un des principes des récits que j'aborde. Ça vient aussi des travaux de l'historien américain Howard Zinn qui estime que parfois il faut savoir mettre en lumière ces moments de notre histoire où les hommes ont su justement s'allier, vivre ensemble, combattre ensemble et parfois même gagner. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas.
Juste pour terminer, quand est-ce qu'on peut attendre le volume 2?
Pour mars 2012. 2012. Et après, à partir de là, on sortira deux albums par an, c'est-à-dire ça sera mars et novembre systématiquement si tout va bien. Donc voilà, tome 2 en mars 2012, tome 3 en novembre 2012.
D'accord. Et ben je rappelle Chris que donc votre premier volume de cette BD qui s'appelle Svoboda est sorti aux éditions Futuropolis. Merci beaucoup.
Merci.